9h-10h, France Bleu Champagne Ardenne, les experts.
Les experts aujourd'hui sur les finances et comment ne pas payer un euro de trop d'impôts. 03 26 50 81 81 pour poser toutes vos questions à notre expert financier. Bonjour Jean-Marc Béguin.
Bonjour Olivier.
Alors tout d'abord, les impôts et le prélèvement à la source, ça en est où tout ça? Ça va se faire ou ça va pas se faire?
Alors c'est difficile de répondre parce qu'on ne sait pas évidemment qui va être élu président de la République demain et quelle majorité il y aura à l'Assemblée nationale, c'est même deux choses distinctes. Certains candidats ont clairement annoncé qu'ils ne le mettraient pas en œuvre, d'autres sont plus flous. Donc on ne sait pas du coup si ce mécanisme de prélèvement à la source verra le jour ou pas. En tous les cas, s'il voit le jour, c'est à compter des revenus 2018, dès le mois de janvier, ça sera une ponction sur le salaire dès le mois de janvier. Ça va entraîner beaucoup de difficultés, de complexités. On reviendra évidemment si ce mécanisme de prélèvement à la source, je pense qu'on aura des émissions spécialisées là-dessus parce qu'il y a beaucoup à en dire. Il est difficile aujourd'hui de dire si réellement il sera mis en œuvre ou non. Et ça aura sûrement des répercussions sur tout ce que l'on va pouvoir dire aujourd'hui, parce que ce que l'on va pouvoir dire aujourd'hui, c'est comment économiser des impôts, mais pour les revenus de cette année 2017, pour les revenus 2016, on est bien d'accord. Il est trop tard, donc ouais. Vous allez bientôt d'ailleurs recevoir votre déclaration de revenus 2016, et donc là, il est trop tard pour 2016.
Donc tout ce qu'on dit aujourd'hui, ça sera valable pour l'année prochaine.
Voilà, ça sera sur les revenus 2017, donc à déclarer en 2018, parce que ce qu'il faut dire, même si le prélèvement à la source voit le jour l'année prochaine, eh bien, il y aura quand même une déclaration de revenus, parce que beaucoup de gens pensaient qu'il n'y aurait plus de déclaration de revenus, il y aura toujours une déclaration de revenus à faire qui permettra justement de faire la différence entre ce que l'on a réellement encaissé et ce qu'on a réellement aussi décaissé, ce dont on va parler aujourd'hui. Alors évidemment, ça pose des difficultés parce qu'on a entendu parler de cette année blanche sur 2017, c'est-à-dire qu'on ne payerait pas d'impôts sur 2017. Qu'en est-il justement de toutes ces réductions d'impôts, etc., dont on va parler aujourd'hui? Eh bien, elles seront bien appliquées, mais a posteriori, donc pas directement sur le prélèvement qui sera fait sur le salaire à compter de janvier 2018.
Alors on va rentrer dans le vif du sujet directement pour payer moins d'impôts. Le principe des frais réels. Comment savoir si les frais réels sont avantageux pour nous ou pas par rapport à la déduction d'office des 10%.
Alors déjà, c'est facile, il suffit de faire le calcul, d'additionner les frais réels dont on va détailler dans quelques instants ce qui peut être déduit. Donc, dès qu'on dépasse 10%, on a tout intérêt, effectivement, à choisir les frais réels. Alors, les frais réels, ce n'est pas uniquement l'indemnité de kilométrique, connaissent tous les contribuables, ou je l'espère, en tous les cas. Il faut savoir, c'est lorsque l'on se rend à son travail, eh bien, on a le droit de déduire les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, donc aller-retour tous les jours.
Donc les frais kilométriques, est-ce qu'on peut déduire les factures de vidange, de péage éventuellement?
Alors quand vous utilisez le barème kilométrique, donc il comprend à peu près tout, sauf trois choses qu'on peut rajouter à ce barème kilométrique. On peut rajouter les frais de péage, justement, vous en avez parlé. On peut ajouter les frais de parking aussi, lorsqu'on a besoin de louer un parking, par exemple, pour se garer en ville, etc. Donc tout ça peut rentrer dans ce que l'on ajoute à l'indemnité kilométrique qui vient d'ailleurs d'être publié au bulletin officiel des impôts. Et puis enfin, on peut déduire le remboursement d'emprunt si on a les intérêts du remboursement d'emprunt, pas la partie capital, mais la partie intérêt. Donc on va pouvoir déduire le montant des intérêts de cet emprunt quand on utilise évidemment son véhicule pour se rendre à son travail. Alors c'est un peu compliqué parce que quand on a un véhicule, on ne l'utilise pas forcément
100% pour le travail.
Voilà, donc il va falloir faire une quote-part. Donc il faut regarder un petit peu en termes de kilométrage, alors évidemment, c'est très difficile à prouver, il faut quand même être raisonnable avec le fisc, voire même en discuter avec son contrôleur des impôts, mais vous pouvez tout à fait déduire donc cette part d'intérêt des emprunts que vous avez réalisés, donc c'est bien, ça vous permet quand même de diminuer le montant de la facture. Alors, quelle est l'idée des frais réels? Ils viennent en déduction du salaire, et lorsque l'on choisit les frais réels, j'ai tendance à dire qu'il faut les optimiser, donc essayer de trouver toutes les petites failles, tout ce qui peut exister, en tous les cas, dans le bulletin officiel des impôts. Il y en a plein, donc on a parlé d'indemnité kilométrique, mais il existe, on a parlé donc de remboursement des intérêts d'emprunt, mais on peut aussi, par exemple, passer les frais de repas. C'est-à-dire le midi, quand vous ne pouvez pas rentrer à domicile, eh bien, vous pouvez ajouter les frais de repas, donc le restaurant, alors, sauf si l'entreprise met à disposition
les
une cantine. Alors, s'il y a un ticket restaurant, donc on va pouvoir, donc il y a un petit calcul à faire, il faut prendre la note de restaurant, par exemple, vous avez mangé ce midi pour 15 euros, vous allez déduire la part employeur, donc, du ticket restaurant, puis aussi, une somme somme forfaitaire qui s'élève, alors je l'ai pas vérifié, je vais le dire de mémoire, mais je vais vérifier aussitôt pendant la pause musicale, ça va être 4,65 €. Mmh. Donc, par exemple, je prends un exemple, votre employeur dans le ticket restaurant met 4 €, vous avez dépensé 15 € au restaurant, vous allez pouvoir compter en frais réels 15, moins les 4 € de la part employeur du ticket restaurant, moins 4,65, la différence donc rentre bien en frais réels.
Alors, donc ça, on peut l'ajouter aux frais réels, au même titre que le péage, etc.
Effectivement, on peut l'ajouter. Alors attention, il faut conserver les notes de restaurant.
Oui, c'est pas un forfait par jour travaillé, etc. Il faut nos tickets de tous les jours dans le restaurant.
Il faut garder toutes les additions. Et puis, autre chose, alors par contre, si vous ne pouvez pas prouver que vous avez été au restaurant, ou vous n'allez pas au restaurant, vous achetez un sandwich, etc., et ça devient un peu plus compliqué, eh bien, dans ce cas précis, vous allez pouvoir donc directement compter une indemnité forfaitaire. C'est ce que je cherchais, c'est 4,70 € au lieu de pas 4,65. Vous voyez, j'étais resté à l'année d'avant. Donc, vous allez pouvoir compter 4,70 € par jour. C'est-à-dire qu'à partir du moment, par exemple, quelqu'un qui ne touche pas de ticket restaurant, eh bien, tous les jours, il peut compter 4,70 €. Évidemment, il faut qu'il soit éloigné de son domicile, parce que s'il habite à côté de son travail, ça ne peut pas compter. Le fils va vous dire, vous n'avez qu'à rentrer chez vous, donc vous ne pouvez pas déduire ces 4,70 €.
4,70 € par jour travaillé, ça.
Alors, on travaille environ 220 jours, ça commence à faire, on travaille environ en moyenne 220 jours par an. Donc, 220 jours fois 4,70 €, tout de suite, ça fait des sommes. L'idée, c'est lorsque l'on choisit les frais réels, évidemment, c'est jamais le fils qui vous encouragera à aller dessus. Parce que pour lui, c'est moins de rentrée fiscale, mais c'est parfaitement légal, puisque vous disiez tout à l'heure en introduction, donc on va bien parler de choses qui sont légales ce matin, donc ça rentre bien, effectivement, dans les frais réels.
Et dans un instant, on va parler des voitures en leasing. Vous savez, ces voitures en longue location, est-ce que c'est avantageux fiscalement d'utiliser ce type de voiture, de louer ces voitures? On en parle juste après. Aloïs et le titre Loin, c'est une nouveauté France Bleu.
Peu importe.
Alios sur France Bleu, c'est une nouveauté avec le titre « Loin ». Dans un instant, Michel Berger, il y aura aussi Christophe Mahé ou encore Étienne Daou. Comment payer moins d'impôts? Jean-Marc Béguin, expert financier, vous conseille aujourd'hui sur France Bleu et répond à vos questions. 03 26 50 81 81. Donc on a vu, puisqu'on parle de frais réels pour le moment, que déduire des factures de garagiste, c'était pas possible parce que c'était déjà dans l'indemnité kilométrique. Par contre, pour les frais de repas jusqu'à 4,70 €, c'est possible. Pour les frais de péage aussi. En ce qui concerne prendre une voiture en leasing, donc soit location longue durée ou location avec option d'achat, est-ce qu'il y a un avantage fiscal par rapport à ça?
Alors oui, donc dans ce cas précis, ça peut être vraiment intéressant parce que là, on va pouvoir carrément déduire le montant du loyer de la voiture. Alors toujours pour la part d'utilisation professionnelle, hein, donc vous allez faire une quote-part, une règle de 3, hein, donc sur la part d'utilisation. Et là, ça peut devenir vraiment intéressant puisque vous allez pouvoir déduire le montant du loyer de votre véhicule, hein, puisqu'on paye un loyer lorsqu'on est en LOA ou en location longue durée.
Donc 100% du montant du loyer.
Alors, 100%. Si c'est 100% d'utilisation professionnelle, hein, ou si par exemple c'est 2/3 d'utilisation professionnelle, eh bien 2/3 du loyer, vous allez pouvoir le passer.
Donc c'est avantageux ça, non?
C'est avantageux. Alors vous n'allez pas pouvoir par contre utiliser l'indemnité kilométrique qui est publiée par le fisc. Ouais. On ne peut pas tout avoir quand même. Ouais. Donc par contre, vous allez pouvoir déduire vos frais de carburant. Et là, cette fois-ci, tous les autres frais, les frais de garage, etc., dont vous avez parlé tout à l'heure. Donc là, il faut un calcul qui est quand même beaucoup plus complexe, ouais, mais qui se révèle être souvent quand même beaucoup plus intéressant pour le contribuable. Donc, il est obligé chaque année de faire le point, il peut se faire un tableur sur Excel, hein, et puis de regarder exactement donc le montant de ses loyers, et puis toutes les autres factures. S'il a changé ses pneus, il peut les passer dedans. S'il a eu des frais de vidange, il peut les passer dedans, etc., etc. Plus aussi, les frais de carburant, ces frais de carburant sont aussi dans le barème fiscal qui vient d'être publié il y a quelques jours sur le site des impôts.
Que ça soit une voiture prise en location longue durée ou location avec option d'achat, c'est pareil ou il y aura l'un des deux qui est quand même mieux pour payer moins d'impôts?
C'est pareil pour les deux, donc on déduit le montant du loyer pour les deux. Après, il y en a peut-être qui sont plus intéressants que d'autres, donc là c'est un choix entre la LOA et la LLD. On pourra faire une émission sur ce sujet peut-être une autre fois, mais en tous les cas, fiscalement, c'est la même chose.
Qu'en est-il de l'achat d'un costume? Par exemple, pour un commercial qui doit, et n'y voyez aucune question à connotation politique, un commercial par exemple qui doit représenter, ou un banquier, voilà, un directeur de banque, peut-il déduire son costume de ses frais réels?
Hélas non, il le sait bien, donc le banquier, c'est amusant votre question, parce qu'en fait il existe une liste des vêtements que l'on peut passer en frais réels, et par métier. Et pour le banquier, figurez-vous qu'il y a deux vêtements que l'on peut encore passer aujourd'hui. Ça s'appelle le manchon du caissier. Donc c'est quand il existait des caissiers dans les banques, ça remonte déjà à quelques années, c'était pour protéger leurs coudes. D'accord. Ou la blouse du banquier, c'était pour le personnel administratif des banques. Donc bon, on est bien d'accord que tout ça n'existe plus depuis belle lurette, mais ça figure toujours dans les documents de l'administration fiscale. Non, seules les tenues professionnelles peuvent être déduites, c'est-à-dire par exemple la tenue du mécano, la tenue du cuisinier, la tenue du policier si elle ne lui est pas payée, s'il veut acheter des tenues supplémentaires, ouais, etc. Il faut que ce soit une tenue professionnel. Donc le costume du banquier ou du commercial n'est pas considéré comme une tenue professionnelle, sauf s'il faut acheter un habit spécifique avec des couleurs spécifiques, etc. Mais autrement, ça ne rentre pas dedans, hélas, pour tous ceux qui nous écoutent.
On a été assez complet sur les frais réels.
Sur les frais réels, je crois qu'on a dit beaucoup de choses. Je vous incite, hein, d'aller sur un site de l'administration qui est très très peu connu. C'est pas le site impots.gouv.fr, c'en est un autre. Il faut taper sur le moteur de recherche, ça sera beaucoup plus facile. Le mot BOFIP, B-O-F-I-P, on pourra peut-être le mettre sur le site de France Bleu. En fait, ça s'appelle, c'est le bulletin officiel des finances publiques, et il y a un moteur de recherche, vous tapez frais réels, et là vous avez des pages et des pages sur ce que l'on peut faire ou ne pas faire. Et donc quand vous avez des questions et vous n'êtes pas sûr, eh bien vous allez là-dessus, c'est opposable au contrôleur des impôts, c'est-à-dire que si c'est écrit sur ce document, le contrôleur des impôts doit obligatoirement, évidemment, suivre ce qui est écrit dans ses instructions.
BOFIP, B-O-F-I-P, voilà pour les frais réels. On va parler des défiscalisations, des achats de biens immobiliers, des déductions suite à des travaux d'amélioration de l'habitat comme l'isolation ou encore d'épargne, mais aussi de mariage, de Pâques. Est-ce que c'est avantageux de se marier pour les impôts, même si on ne le fait pas pour ça à l'origine? C'est dans la partie suivante des experts sur France Bleu, Champagne-Ardenne.
Thank you. la passe toute la nuit à regarder les étoiles, en pensant qu'au bout du monde y a quelqu'un qui pense à lui. Et cette petite fille qui joue, qui ne veut plus jamais sourire, et qui voit son père partout, qui s'est construit un empire. À la fête, où qu'ils aillent, ils sont seuls dans leur tête. Je veux chanter pour ceux qui sont loin de chez eux et qui ont dans leurs yeux quelque chose qui fait mal, je veux chanter pour ceux. Qui a volé leur mémoire, qui a piétiné leur vie, comme on marche sur un miroir. Celui-là voudra des bombes, celui-là comptera les jours, en alignant des bâtons, comme les barreaux d'une prison. À la fête, où qu'ils aillent, ils sont seuls dans leur tête. Je veux chanter pour ceux qui sont loin de chez eux et qui ont dans leurs yeux quelque chose qui fait mal, qui fait mal. Je veux chanter pour
pour ceux qui sont loin de chez eux. Michel Berger sur France Bleu.
Jusqu'à 10h, France Bleu Champagne Ardenne, les experts.
Comment payer moins d'impôts? On vous donne tous les conseils, les astuces légales pour ça avec Jean-Marc Béguin, notre expert financier. Alors, il y a deux choses à savoir. Il y a la déduction du revenu imposable sur le revenu imposable et il y a la déduction des impôts. Ce sont deux choses vraiment différentes, ça.
Alors, effectivement, si on veut être très puriste, donc il y a des charges qui sont déductibles du revenu imposable, c'est-à-dire avant le calcul de l'impôt. Et puis ensuite, on a des réductions d'impôts, voire même des crédits d'impôts. Donc, on va essayer de voir tout ça en détail en commençant par donc les charges qui sont déductible du revenu imposable, c'est-à-dire avant de faire le calcul de l'impôt, on l'a bien compris, moins on a de revenu imposable, évidemment, moins on a d'impôts.
Alors, qu'est-ce qu'on peut déduire de ce revenu imposable?
Alors, il y a pas mal de choses qui sont déductibles, à commencer par les pensions alimentaires. Donc, lorsque l'on verse une pension alimentaire, soit à ses enfants, soit à une autre personne, ça peut être aussi notamment à une personne âgée, on a une obligation alimentaire envers ses parents, quand ils sont en maison de retraite et qu'ils n'ont pas les moyens de payer cette maison de retraite. Donc, tout ça est parfaitement déductible, avec des règles évidemment qu'il faut à chaque fois regarder, mais en tous les cas on peut déduire ces pensions alimentaires. Elles sont plafonnées pour les enfants majeurs, elles ne le sont pas justement dans d'autres cas. Et puis il y a une autre chose en termes de pension qui ressemble à une pension sans soit vraiment une, pardon, c'est ce que l'on appelle les frais d'accueil. Et c'est vrai que ça c'est très très peu connu. En fait, on a deux possibilités de frais d'accueil. Tout d'abord, les frais d'accueil d'une personne de plus de 75 ans. Donc, si vous accueillez chez vous une personne qui a plus de 75 ans, qu'elle ait ou non un lien de parenté, Ouais. Eh bien, vous allez pouvoir déduire, au titre de cette personne, 3411 euros par personne accueillie.
Donc, on déduit ça du revenu imposable.
Du revenu imposable. Ouais. Donc, le salaire étant une des parties de ce revenu imposable. Ouais. Donc, vous allez pouvoir déduire 3411 euros par personne accueillie. Attention, il faut que cette personne soit dans le besoin, c'est-à-dire ait un revenu assez faible. C'est un petit peu moins de 10 000 euros par an lorsque l'on est seul. C'est un petit peu moins de 14 000 euros si on est en couple. En tous les cas, vous vérifiez tout ça. Et vous pouvez déduire, si vous êtes donc dans ce cas, 3411 euros. Et c'est moins connu, on a aussi les frais d'accueil des enfants. Donc par exemple, vous avez un enfant que vous ne pouvez pas compter à charge, c'est-à-dire vous ne pouvez pas rajouter des parts supplémentaires. Et bien si vous l'accueillez chez vous, il habite chez vous, donc évidemment vous le nourrissez, vous le blanchissez, etc. Et bien là encore, si ces conditions de revenus sont inférieures au seuil que j'ai fixé juste avant, et bien vous allez pouvoir déduire 3411 euros aussi par enfant accueilli. Donc ça arrive de temps en temps, par exemple il y a un divorce, il y a l'enfant qui revient habiter chez ses parents, et bien ses parents, comme ils lui offrent le domicile, ils lui offrent aussi donc le blanchissage, etc. Ils vont pouvoir déduire 3411 euros. Attention, si donc le revenu est bien inférieur à la somme que je vais vous donner. Je vais vous donner peut-être le montant exact. Mmh. Donc c'est inférieur à 9 609,60 € pour un célibataire, c'est très précis.
Ça serait dommage pour j'imagine celui qui a 70 centimes au lieu de 60.
Voilà. Et puis pour un couple, 14 918,90 €. Mmh. Donc voilà. Oui, bah, ce sont des seuils, hein. C'est toujours le problème des seuils. Mmh. Donc voilà. Donc si vous êtes en dessous de ces seuils, par exemple, vous accueillez un enfant. Il est célibataire, forcément, il est en divorce souvent, il a moins de 9 900 euros de revenus, et bien dans ce cas précis, 9 euros de revenus, et bien vous allez pouvoir vous déduire de votre revenu imposable, 3411 euros si vous l'accueillez chez vous.
Voilà pour les principales déductions sur le revenu imposable.
Ah, il y en a une autre qui est très connue quand même, et là qui touche au monde bancaire, c'est tout ce que vous allez investir sur votre plan d'épargne retraite populaire. Lorsque vous versez de l'argent sur votre plan d'épargne retraite populaire, et bien cette somme que vous avez investie donne droit à déduction. Alors attention, quand on va sur un PERP, hein, donc ces fameux plans d'épargne retraite populaire qui avaient été créés par Nicolas Sarkozy lorsqu'il était ministre de l'économie, eh bien ils sont bloqués jusqu'à l'âge de la retraite. Donc il faut quand même faire attention. Hein, donc si quand vous mettez de l'argent, ça peut être intéressant évidemment pour un peu optimiser votre retraite. Donc vous allez avoir, bon côté des choses, une déduction de votre revenu imposable, donc moins d'impôts à payer. Par contre, il faudra attendre la retraite.
On ne pourra pas profiter de cet argent tant qu'on n'est pas à la retraite.
Exactement. Et voilà, donc pour les principales sommes, il y a beaucoup de choses que l'on peut déduire de son revenu imposable, mais je pense que là on a fait le tour de ce qui était important.
Pour les déductions du revenu imposable, il y a ensuite les déductions d'impôts, même les crédits parfois d'impôts. On va en parler juste après ça.
France Bleu. Le journal des bonnes nouvelles. Chloé Bidet.
On joue ensemble chaque week-end sur France Bleu Champagne-Ardenne entre midi et midi et demi. On revit ensemble les meilleurs moments de l'antenne de France Bleu Champagne-Ardenne, tout ce qui s'est passé pendant la semaine qu'il ne fallait pas louper. Et ça vous permet de repartir avec des cadeaux. Rendez-vous entre midi et midi et demi tous les week-ends.
La braderie Les Folies de Mars, organisée par les Vitrines de Reims, l'association des commerçants du centre-ville, se déroulera vendredi 18 et samedi 19 mars. Vous pourrez gagner 1000 euros de chaque cadeau Vitrine de Reims chez les commerçants et sur Facebook. Les bulletins de jeu sont disponibles chez les commerçants participants. Retrouvez la liste sur vitrinedereims.com. Rendez-vous vendredi 18 et samedi 19 mars dans les rues du centre-ville de Reims pour Les Folies de Mars.
France 2. Demain soir, Les Témoins saison 2 avec Marie Dompnier et Audrey Fleurot.
C'est depuis combien de temps les corps sont congelés ?
Une découverte glaçante. Les hommes retrouvés congelés dans un bus sont tous reliés par la même femme.
Ces hommes dans le bus, vous les avez tués ?
Je sais pas.
Nouveau duo, nouveau mystère. Les Témoins saison 2, demain soir à 20h55 sur France 2.
Comment payer moins d'impôts ? On vous donne des conseils, des astuces légales avec notre expert financier Jean-Marc Béguin. On a parlé des frais réels, on a parlé des déductions sur le revenu imposable. On va parler maintenant des déductions d'impôts. Jean-Marc, qu'est-ce qu'il y a dans les déductions d'impôts ?
Alors, cotisation syndicale, c'est même réduction d'impôts. Donc pour utiliser la terminologie, donc on peut tout d'abord effectivement déduire des dons. Alors il faut faire attention. On a plusieurs types de dons. On a notamment tout d'abord les dons au profit d'organismes d'aide aux personnes en difficulté. C'est notamment les restos du cœur, on en parle beaucoup en ce moment. Donc là, c'est 75% du montant du don, la réduction d'impôt, c'est très fort. Le don est plafonné à 530 €, mais bon, ça donne quand même une belle réduction d'impôt, 75% de 530. Pour les autres dons, c'est-à-dire aux autres associations d'intérêt public, ou, puisque c'est tendance actuellement aux partis politiques, hein, puisque vous pouvez verser de l'argent aux partis politiques, et cela vous donne droit, aussi curieux que ça puisse paraître, à une réduction d'impôt. Et là, cette fois-ci, la réduction d'impôt est de 66% du montant du don, ce qui est quand même déjà aussi une belle information. Deuxième, et c'est souvent oublié par les contribuables lorsqu'ils remplissent leur déclaration de revenus, c'est pourtant uniquement des cases à remplir, c'est les frais de scolarisation. Il faut savoir, c'est que le fisc offre une réduction d'impôt quand vous avez des enfants au collège, au lycée ou en études supérieures. C'est 61 € pour le collège, 153 € pour le lycée, 183 € pour les études supérieures. C'est quand même pas mal, mais si vous remplissez pas les cases, eh bien le fisc, évidemment, ne sait pas et donc il ne vous déduit rien.
C'est quoi ces cases-là?
C'est marqué frais de scolarité. Donc voilà, c'est en page 4 de la déclaration de revenus papier. Après, il faut regarder sur Internet, c'est assez facile à trouver. C'est pas caché non plus, le fisc n'est pas aussi vicieux.
Mais ça, c'est pas pré-rempli quand même.
Ça n'est pas pré-rempli parce que le fisc ne sait pas que si vos enfants sont au collège, au lycée ou en études supérieures.
Par rapport à l'âge.
Ouais, mais c'est pas parce que vous avez 17 ans que vous êtes forcément. Peut-être vous avez terminé vos études.
Donc, il faut remplir la case. Et surtout pas oublier.
Exactement. Alors après, il y a toute une ribambelle de réduction d'impôts. On n'a pas le temps, malheureusement, de les voir en détail. Évidemment, celle qui est intéressante actuellement, dont on parle beaucoup, et on parle là de défiscalisation immobilière, c'est cette fameuse loi Pinel, donc qui a remplacé la loi Duflot, donc qui elle offre une réduction d'impôt lorsque vous achetez un appartement en vue de le louer. Donc là, c'est vraiment intéressant puisque le montant de la réduction d'impôt varie de 12 à 21% du montant d'investissement, donc c'est quand même intéressant, dans un plafond d'investissement de 300 000 € par an. Ce qui est déjà pas mal. Donc là, ça fait vraiment une belle réduction d'impôt. Alors c'est une réduction d'impôt pluriannuelle. On ne déduit pas d'un coup 21%. On va le répartir sur 9 ans. Mais en tous les cas, ça peut être vraiment intéressant d'utiliser cette réduction d'impôt. D'ailleurs, elle est très utilisée actuellement avec la relance de l'immobilier.
Donc pour acheter un appart en vue de le louer, mais pour un propriétaire qui achète et qui habite dans son logement, est-ce qu'il a un avantage ?
Malheureusement, il n'y a plus rien. Donc il y a eu pendant un grand bout de temps les intérêts d'emprunt. Donc tout ça maintenant, ça ne fonctionne plus. Dans votre résidence principale, vous allez trouver par contre des crédit d'impôt, qu'on va voir maintenant pour terminer, donc le crédit d'impôt de transition énergétique. Donc,
on n'a pas pic de pollution, donc ça...
Ça tombe très bien, donc j'ai bien eu le message d'alerte du préfet hier, donc effectivement, lorsque l'on fait des travaux dans le but de faire des économies d'énergie ou autre, tout ce qui est transition énergétique, il y a une liste énorme, donc il faut regarder, là encore,
poser un insert sur sa cheminée qui a foyer ouvert, par exemple.
Avec le foyer ouvert, ça ne va pas forcément fonctionner.
Non mais justement, pour le fermer, pour poser un insert.
Ah, pour poser un insert. Alors, vous me posez une colle parce que ça a changé cette année. Je ne suis pas certain que ça fonctionne encore justement cette année, cette notion d'insert. À vérifier en tous les cas. Je vérifierai tout de suite après pour que vous puissiez le dire sur l'antenne. Merci Olivier de cette colle parce qu'il y a eu quand même pas mal de modifications cette année.
Alors, tous les travaux d'isolation, de toiture.
Ouais, ça marche dedans. Il y a une liste quand même très limitative. C'est très compliqué. C'est pour ça qu'il faut faire très attention lorsque l'on rentre dedans. Déjà, il faut que les travaux soient réalisés par un artisan. Si c'est vous qui fait des travaux, ça ne fonctionne pas. Il faut que cet artisan soit reconnu RGE, qui est bien le logo RGE qui apparaît sur la facture. Donc, vous voyez, il y a énormément de conditions. La grosse nouveauté cette année en termes de crédit d'impôt, et ce sera peut-être la conclusion, c'est l'emploi d'un salarié à domicile. Vous savez que ça a été mis en place depuis très longtemps. Lorsque vous employez un salarié à domicile, une femme de ménage, par exemple.
Comme les chèques emploi-service, tout ça, non?
Voilà,
pas forcément.
Non, c'est pas obligatoirement par chèque emploi-service. Je dirais que c'est un plus. Ça marche en tous les cas dans les deux cas, que vous payez en direct ou par chèque emploi-service, vous ne m'aurez pas. donc là, vous avez droit à une réduction d'impôt. Un crédit d'impôt, pardon, qui est de 50%. J'insiste bien sur cette notion de crédit d'impôt et peut-être expliquer la différence entre réduction d'impôt et crédit d'impôt. La réduction d'impôt ramène l'impôt à zéro. Et si j'ai plus de réduction d'impôt que d'impôt, c'est perdu. Alors que le crédit d'impôt, donc, peut permettre de l'impôt négatif, c'est-à-dire de l'impôt qui va être restitué par le fisc. Et c'est ça qui est intéressant.
Ouais,
et c'est ce qui change cette année, justement, pour les emplois à domicile. Parce qu'avant, les retraités, lorsqu'ils employaient quelqu'un à domicile, ça leur donnait le droit à une réduction d'impôt, parce qu'ils ne travaillaient pas. Et bien maintenant, ils seront, comme pour les salariés, lorsqu'ils embauchent un salarié à domicile, ils auront droit à un crédit d'impôt. C'est une excellente nouvelle, à compter des dépenses de 2017. Donc la réduction d'impôt devient un crédit d'impôt. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'était pas imposable, et bien il va avoir un chèque. C'est encore une très bonne nouvelle, non seulement il ne payera pas d'impôts, mais en plus, le fisc lui fera un chèque durant l'été, puisqu'il rembourse en général ce qu'il doit durant l'été.
Très bien, c'est très clair. Et puis la question sur l'insert, c'était pas du tout voulu.
J'ai bien compris, Olivier. Mais vous donnerez la réponse dans quelques minutes sur l'antenne pour pouvoir justement éclairer vos auditeurs.
Allez, une dernière question. On dit toujours les célibataires, ce sont un peu les vaches à lait du gouvernement. Ce sont eux qui payent le plus. Est-ce que c'est vrai qu'on paye plus d'impôts quand on est célibataire plutôt que quand on est en couple et plutôt que quand on est en couple avec enfants?
C'est complètement faux. Donc effectivement, il ne faut pas imaginer, de toute façon, célibataire ou marié, il n'y a pas de grosse différence à partir du moment où il n'y a pas de grosse disparité dans les revenus du couple. Évidemment, si vous avez quelqu'un qui est au SMIC et puis quelqu'un qui gagne 10 000 euros par mois, ça va changer la donne. Par contre, donc quelqu'un qui a si vous avez des revenus moyens autour de 2 000 euros par mois et vous mariez, vous n'allez pas avoir particulièrement de changement. Donc n'attendez pas à avoir de baisse d'impôts. Évidemment, lorsque l'on va avoir des enfants, on va payer moins d'impôts parce qu'on a un mécanisme en France qui s'appelle le quotient familial qui va permettre donc justement de diminuer le barème de l'impôt. Et plus vous avez d'enfants, moins vous payez d'impôts. Alors il y a des plafonnements aussi à ce dispositif, c'est très compliqué à expliquer en très peu de temps. En tous les cas, le fait d'avoir des enfants permet effectivement de payer moins d'impôts, mais je ne pense pas que l'on fasse des enfants uniquement dans le but quand même de payer moins d'impôts, du moins je l'espère.
Espérons, effectivement. Merci Jean-Marc Béguin, expert financier. On a appris plein de choses cette émission. Les experts, à bientôt. Dans un instant, on va parler emploi sur France Bleu avec un magasin qui va ouvrir près de Reims, à Cormontreuil, et qui recrute à temps plein en CDI.
Les experts, à réécouter en podcast sur francebleu.fr.